Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger ? Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote !
France Inter. Grand bien vous fasse. Le podcast.
C'est super, hein ? Ah là là, mais la nature, mais moi je ne pourrais pas me passer de ça.
C'est sûr.
Ah là là, c'est... Mais quel bonheur. Regarde comment on respire. Moi, j'ai rajeuni 10 ans, quoi.
Ah,
hein.
C'est sûr.
Pas de rendez-vous, hein, pas de bouchon.
Pas de mail, pas de coup de fil.
Ah ben non, pas de klaxon, pas de gens partout. Pas de bar, pas de restaurant, pas de vacarme.
Pas de voisins, pas d'amis.
Pas de vie.
Non.
Paris me manque.
Catherine et Liliane sur Canal+, Alex Luce et Bruno Sanchez en néo-rural, prise d'une crise d'angoisse. Bonjour Valérie Joussomme.
Bonjour.
Vous êtes enseignante chercheuse à l'Institut de Géographie et d'Aménagement de l'Université de Nantes au sein de l'équipe CNRS Espace et Société et vous avez publié un essai passionnant, un nouveau récit pour les campagnes, Plouc Pride, en poche chez Micros. Valérie Joussomme, vous retournez le stigmate à propos des ploucs. Plouc Pride comme Gay Pride, fierté d'être plouc.
C'est ça, c'est une resignification subversive, c'est-à-dire on récupère une insulte et quand on a dépassé le sentiment d'insulte, quand on n'estime pas que celui qui nous insulte est supérieur à nous, alors on est à l'aise en disant mais plouc est fier de l'être.
Il semble, Valérie Joussomme, que nous assistions à un renversement des imaginaires.
C'est ça, c'est ça. On parlera peut-être de l'exode urbain. Je ne sais pas s'il a lieu et c'est peut-être pas souhaitable qu'il ait lieu massivement. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que clairement, il y a un renversement des imaginaires. C'est-à-dire, il y a 40 ans, on voulait avoir plus d'argent, plus de confort, plus d'avoir, on va dire. Et donc, ça passait par la ville. Et la ville était chargée de tous les imaginaires positifs.
C'est vrai que longtemps, la ville a été un modèle de vie désirable. Mais depuis quelques années, vos recherches constatent des signaux faibles qui montrent que nous vivons peut-être un début de renversement dans la manière dont on parle de la ruralité.
Tout à fait. Exactement dans la manière dont on parle de la ruralité. Aujourd'hui, elle est chargée de significations positives, de liberté, d'espace, de nature, de relations sociales plus apaisées. Après, on peut dire que moi, en tant qu'universitaire, l'affaire, on l'a vu venir depuis un moment, puisque je vais peut-être vous surprendre beaucoup. Mais en 1990, ça veut dire il y a plus de 30 ans, il y a un ouvrage qui est sorti par un professeur de géographie et sociologie de l'Université de Toulouse qui s'appelle « La Renaissance rurale ». Et ça a été une de nos bases de réflexion. Enfin, moi, j'étais jeune étudiante à l'époque. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on constate ? Eh bien, on constate, si on regarde le rapport territoire-population, jusque vers 1850, peuplement de type paysan, donc très dispersé dans l'espace français. 1856-1970, il y a un phénomène de concentration, donc d'urbanisation très nette. On est à la campagne et on migre vers la ville. 1970-1990, ce qui est dense se dessert, la ville se dessert, mais les campagnes continuent quand même à perdre, donc c'est la périurbanisation. Mais depuis les années 90, il y a un desserrement généralisé. Aujourd'hui, on est dans les périphéries urbaines et on migre. Vers, c'est plus hiérarchique, on migre pas strictement vers la ville, on migre, c'est régional, on migre vers le sud et vers l'ouest. Donc il y a un changement de dynamique très importante.
Désirer vivre loin des villes n'est plus vu comme une incongruité, mais on est encore loin quand même de l'exode urbain.
Oui, voilà. Je pense qu'il faut garder, il faut être raisonnable. Je pense que médiatiquement, le confinement, en fait, quel est l'intérêt de la ville ? La ville, c'est la diversité et la densité. C'est la rencontre entre les humains. Donc, confinement, la ville sans contact. La ville sans contact a-t-elle un intérêt ? Et c'est vrai que là, on a vu, évidemment, les gens aller chercher la campagne. Voilà, mais il ne serait pas raisonnable, pour les campagnes d'ailleurs, d'espérer un exode urbain massif. La campagne n'est pas prête.
D'un point de vue statistique, les citadins n'ont pas quitté la ville en masse pour s'installer dans les campagnes. Nous n'avons pas assisté à un exode urbain depuis le Covid. Selon l'étude « Exode urbain, impact de la pandémie de Covid-19 sur les mobilités résidentielles » menée par l'enseignante chercheuse en géographie à l'Université l'université de Perpignan, dont j'ai oublié le nom, il n'y a pas eu de déferlement massif des populations urbaines.
Non, mais heureusement, les campagnes ne sont pas du tout prêtes à accueillir massivement. Mais par contre, ce qu'on constate, c'est qu'il y a un renversement des imaginaires. Mmh. Et moi, je dis toujours que l'imaginaire, c'est le premier échelon, c'est la première strate d'une matérialisation. Donc pour moi, s'il y a renversement des imaginaires, ça va forcément atterrir concrètement. Et moi je dis, à partir du moment où tout le monde rêve d'habiter comme dans une cabane dans les arbres, même si on va pas tous aller habiter dans des cabanes dans les arbres, il n'empêche que ça va changer notre façon de vivre, notre maison, etc. Et forcément, à un moment donné, il y a des gens qui vont aller vers les campagnes, ça va se matérialiser.
Dorothée Barba.
Oui, ce qui est intéressant, c'est le décalage, comme vous le dites, entre ce qu'on vit et ce qu'on aimerait vivre. J'ai vu passer des chiffres récemment, je parle sur votre contrôle évidemment, 30% des Français environ habitent à la campagne aujourd'hui, et plus de 80% estiment que le cadre de vie idéal, c'est le village. C'est fou ça, pourquoi est-ce qu'ils n'y vont pas tous C'est ce qu'on se demande finalement.
Ben, parce que pour le moment, la ville et en particulier la grande ville est le moteur de l'emploi. Hein, donc c'est là où se crée la valeur, c'est là où on a l'emploi. Donc, mais c'est vrai que par exemple, le télétravail apporte le numérique. C'est une vraie carte pour les espaces ruraux parce que la proximité physique n'est pas aussi nécessaire qu'elle a été.
Je donnais la parole récemment dans les carnets de campagne à une personne qui vivait en ville et qui s'est installée à la campagne et qui me disait, d'ailleurs elle a un podcast sur le sujet qui s'appelle Laisse Béton, qui est formidable, et elle me disait, souvent on parle de reconnexion à la nature, dans mon cas à moi, elle dit c'est plutôt une connexion tout court. On s'imagine pas quand on vit en ville à quel point on est déconnecté, on connaît même pas les noms des arbres dans notre propre jardin. Voilà, savoir qu'on ne sait rien, c'est un premier pas très, très beau vers l'humilité et vers cette fameuse connexion à la nature.
Et j'ai retrouvé le nom de cette enseignante chercheuse, autrice de l'étude Exode urbain, impact de la pandémie de Covid-19 sur les mobilités résidentielles. C'était important de citer Aurélie Delage. Bonjour Valérie Bohin.
Bonjour Ali.
Vous êtes journaliste et il y a 3 ans, vous avez produit le podcast Ciao Paris pour raconter votre exode vers la campagne près de Toulouse, en Haute-Garonne. Vous avez fait le choix de partir de Paris. En 2018, vous vivez un burn-out. Vous ne supportez plus Paris.
Oui, je me rends compte que dans les facteurs déclenchants de ce burn-out, il y en a un qui est très important, qui est mon environnement. Moi, j'ai grandi en Corse. Jusqu'à 18 ans, au bord de la mer.
Enfin, chanceuse.
Voilà, entre la mer et la montagne. Et en arrivant ici, j'ai vu des arbres en cage. C'était assez... Bon, et puis la vie a fait que j'y suis restée 23 ans. Mais effectivement, il y avait à ce moment-là une urgence de partir. Et je me suis retrouvée confrontée à des difficultés, des peurs. Et pour me donner du courage, j'ai lancé ce podcast. Je me suis dit que d'aller... rencontrer tous ces gens qui avaient déjà franchi le pas, allaient m'aider. Et surtout que je me suis rendu compte d'une chose qui m'a donné très envie de lancer Ciao Paris, c'était que toutes ces personnes que je rencontrais, qui avaient changé de ville et de vie, elles avaient toutes, à un moment dans leur vie, connu une rupture qui faisait qu'elles ne pouvaient plus continuer à avancer dans leur vie comme elles l'avaient fait jusque-là. Et que elles avaient besoin d'un nouvel espace géographique vierge pour se réinventer d'une certaine manière. Et ce qui était aussi mon cas, donc...
Valérie Bohin, de nombreux écrivains ou cinéastes ont montré combien la ville pouvait galvaniser un individu. Vous, au bout d'un moment, la ville a cessé de vous galvaniser, elle vous a écrasé. Mmh. Et ce retour à la campagne vous a connecté, non pas reconnecté, comme le disait Dorothée Barba, à la nature, et ça a eu un profond impact sur votre bien-être, sur votre santé mentale, physique.
Complètement. On met très longtemps à guérir d'un burn-out. Ce qu'on ne dit pas aussi, c'est qu'il y a de nombreuses rechutes, etc. Le fait de... Alors, je suis allée à la campagne en plusieurs temps, peut-être qu'on en reparlera, mais je suis pas passée de Paris à la campagne directement. J'ai fait une petite transition.
Des paliers, comment plonger.
Très important. Très, très important, les paliers. Enfin, si on en a besoin, en tout cas. Et oui, effectivement, aujourd'hui, le fait d'avoir changé d'endroit, je me rends compte que vraiment, ça m'a réaligné avec ce que j'avais envie de vivre, en fait.
Dorothée, vous recevez de nombreux témoignages qui vont dans ce sens dans Carnet de campagne.
Oui, exactement. Moi, quand je vous entends, je me demande quelle est la part de la ville dans le burn-out. Alors, évidemment, il y a le travail dans l'épuisement professionnel, hein, comme son nom l'indique, mais est-ce que c'est aussi la place des transports, le temps et l'énergie que prennent les transports qui ont créé cet épuisement pour vous ?
Pas seulement, je dirais que c'est globalement c'est le manque d'espace vital en fait. Il y a une chose quand même quand on vit à la campagne, c'est que on peut avoir un endroit de nature rien qu'à soi. On peut avoir un espace dans lequel on est seul. Ici, à Paris ou dans des grandes villes, c'est extrêmement compliqué. Et en réalité, il y avait un. Moi, comme je disais, j'ai grandi dans un endroit où l'attachement à la terre est très important. Et pour moi, c'est fondamental de voilà d'être en connexion avec la terre sur laquelle je vis. Et en fait, c'est vrai que.
Mais Valérie Bourin, vous êtes également partie à la campagne pour être en accord avec vos convictions écologistes.
Oui. Complètement. Complètement. Oui, j'avais vraiment une envie de consommer moins, mieux. Oui, clairement.
Je vous parlais des transports parce que c'est aussi, ça fait partie des fantasmes, me semble-t-il, qui sont très forts sur la vie rurale. Cette idée que voilà, tout doit se faire en voiture, mais qu'on n'est jamais dans les transports en commun, etc. Et j'avais récemment un témoignage dans les carnets de campagne d'une dame qui me disait, bah, pas du tout, moi c'est l'inverse, j'habite dans un village, une petite commune, mais je fais tout à pied et on peut vivre à pied. Donc elle avait la chance, elle, d'avoir une école dans sa commune, ses enfants étaient scolarisés sur place. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'idées fausses hein, sur cette idée des transports, ville versus campagne.
Oui, alors on passe beaucoup de temps quand même dans sa voiture,
hein,
on va pas se mentir. néanmoins, bon, le vélo électrique est quand même un outil formidable.
Oui.
Et moi, j'habite dans un village de 2000 habitants. On fait tout à pied. Voilà. Mes enfants font tout à pied. On est dans une proximité qui fait aussi beaucoup de bien.
C'est vraiment le village, même, non pas du quart d'heure, mais des 5 minutes ou 10 minutes à pied. Valérie Joussomme, votre regard sur le témoignage de Valérie Bourin.
Eh ben moi, je dirais que la différence. Alors, moi, je suis une rurale un peu produit du terroir, un peu à contre-temps de mon époque.
Qui n'a jamais quitté la campagne, donc.
Voilà, bah, j'ai quitté juste le temps de mes études. Et bon, je suis originaire de la région nantaise. Et donc, dans la région nantaise, à mon époque, il y avait énormément de travail. Donc, il se trouve que j'ai trouvé du travail dans la région nantaise. Et je me suis dit, bah, je suis de ce secteur-là, j'ai tout mon réseau relationnel. Donc, je suis dans mon pays, on va dire, voilà. Je suis élue de ma petite commune, enfin, vous voyez. Et moi, je vois la ville et la campagne. C'est-à-dire, moi, ce qui est frappant quand je me déplace, par exemple, à Paris, c'est le silence, le brouhaha urbain. Il y a beaucoup d'écrans, il y a beaucoup de musique. C'est assez... Bon, pour moi, c'est extrêmement bruyant. Et puis, il y a aussi à la campagne, je pense, il y a question de la perspective. Et moi, je pense à un travail de Cynthia Fleury qui s'appelle « Ce qui ne peut être volé », où elle dit l'importance du silence, en fait, pour la santé mentale et psychologique, etc. Et l'importance d'avoir une perspective, de voir l'horizon. Ça paraît pas... mais quand on dit « ma vie n'a pas de perspective », ça va.
Ouais.
Et je pense que la campagne offre ça. Le contact avec la nature, de ressentir ne serait-ce que les saisons, à la campagne, c'est très net.
Et dans ce sens, je renvoie à un formidable livre du neuroscientifique Michel Levin de Quyen, qui célèbre les bienfaits du silence sur notre santé physique et psychique. Bonjour Jean-Laurent Casselli.
Bonjour Ali.
Vous êtes journaliste, essayiste, co-auteur avec Jérôme Fourquet d'un livre essentiel pour comprendre notre société, notre pays, La France sous nos yeux, disponible en poche chez Point. Vous êtes le cofondateur de la maison Casselli, bureau de tendance spécialisé dans les modes de vie et de consommation. Dans La France sous nos yeux, vous parlez de la campagne comme d'une utopie de rechange. Pourquoi est-ce que la néo-ruralité exhale ce fort parfum d'utopie ?
Alors, c'est vrai qu'on s'est rendu compte que sur une certaine partie de la population, la campagne était devenue un nouveau récit salvateur, une nouvelle frontière. Et je pense qu'il y a deux raisons à ça. La première, elle est matérielle, financière. Il y a une sorte de plafond de verre de la gentrification dans les grandes villes qui fait que si on arrive trop tard, en fait, pour acheter ou même pour se loger en tant que locataire, il est difficile d'habiter en région parisienne, mais aussi à Bordeaux, mais aussi à Lyon, mais aussi à Nantes.
La gentrification en un mot.
Ouais, le fait qu'en fait des villes ou des quartiers des villes populaires ont vu leur prix augmenter sous l'afflux de gens qui ont des bons revenus, qui sont diplômés, qui ont des jobs dans les grandes agglomérations, et il y a eu une sorte de lutte des places en quelque sorte pour habiter dans les villes. Donc je pense que D'une certaine manière, cet attrait de la néo-ruralité, de la ruralité, c'est aussi faire de nécessité vertu, en disant, bon, ben, les bonnes places en ville sont prises, donc on va peut-être aller voir ailleurs, s'il n'y a pas quelque chose, voilà. Et de cette nécessité matérielle, c'est un peu cynique ce que je dis, mais je pense qu'il y a un peu de vrai là-dedans, de cette nécessité matérielle est né un récit un petit peu idéalisé, un peu enchanté, dont on a parlé de la campagne comme ce que j'appelle l'utopie de rechange, c'est-à-dire, on en a parlé, la place du village, le petit café, le bar de la fontaine, l'apéro avec les voisins, etc. Bon voilà, ça existe, mais c'est une campagne. C'est une campagne. Il y en a une autre qui est beaucoup plus isolée, qui est beaucoup plus désindustrialisée. On le voit avec la crise des agriculteurs. On voit que les gens qui vivent non pas seulement à la campagne, mais de la campagne ont du mal à en tirer des revenus. Donc il y a une campagne qui est plus isolée, et je dirais que donc il y en a une qui est plutôt favorisée, une qui est plutôt pauvre, et il y en a une c'est l'autre distinction principale, qui est dans l'orbite des villes, et une qui est beaucoup plus isolée. Et celle qui est dans l'orbite des villes, c'est celle-là, dans les études dont vous avez parlé sur l'exode urbain, c'est celle-là qui fait envie, celle-là qui attire de la population. Pourquoi ? Parce que quand on est dans l'orbite des grandes villes de Nantes, de Toulouse ou de Bordeaux, on a finalement le meilleur des deux mondes. On a le meilleur de la campagne, on a le silence, on promène son chien au bord du petit cours d'eau, on a la maison avec jardin, mais on a aussi à une demi-heure de voiture, les services, les emplois, les bonnes écoles, les hôpitaux. Et c'est pour ça que dans l'après-Covid, ce que le consensus qui s'est fait assez rapidement, c'est qu'il n'y a pas eu tant un comeback de la néo-ruralité qu'un renforcement du compromis français qui est le modèle pavillonnaire, banlieue résidentielle, on va dire. Voilà, qui est un peu. Je le redis juste pour remettre des ordres de grandeur, même si c'est vrai qu'on va s'intéresser aussi aux néo-ruraux, je dirais, idéologiques, voilà, qui font partie de ces Français.
Valérie Joussom, votre regard ?
Oui. Il est un petit peu différent. Moi, je dirais que. Mais je suis d'accord sur le fait de l'utopie un peu alternative. C'est-à-dire que si on prend notre histoire, on a été des paysans, on cultivait la terre, etc. Il y a eu la modernité, révolution industrielle, la ville devient le centre démographique, etc. Aujourd'hui, on voit que la modernité, sous les effets de la révolution numérique, nous sommes en train de sortir de la modernité. Et on a deux futurs qui se dessinent. Il y a un premier futur qui est un futur, moi j'appelle ça centralisé, c'est-à-dire que les pouvoirs en place de la modernité, souhaitant garder leur position, nous proposent un futur hyper moderne, c'est-à-dire on va continuer dans la modernité, exalté par le numérique, plus vite, plus loin, plus fort. Et ça, de façon un peu rapide, ça nous emmène vers un monde de la technique à fond, et c'est un peu un monde à la chinoise. Vous voyez, hyper technologique, voilà, etc. Un peu déshumanisé. Et donc, de plus en plus de gens se rendent compte des limites un petit peu écologiques de ce modèle-là, et puis des limites un peu démocratiques, c'est-à-dire que ça devient le monde comme un ordinateur, tout est sous contrôle, et donc, si tout est sous contrôle, il n'y a plus beaucoup de liberté. Et donc, ce monde-là, il s'incarne un peu dans les grandes métropoles, les smart cities, etc. De plus en plus de gens décrochent de ce récit collectif. Non, c'est pas le futur que je désire. Et donc, vous savez, c'est pas l'alternative, on va la trouver dans un opposé. C'est-à-dire qu'on va dire, ben non, je veux pas ça, donc qu'est-ce que je veux ? Ben, je veux une société du numérique où le numérique ne servirait pas à une société du contrôle, où tout est sous contrôle et déshumanisé, mais où le numérique pourrait servir justement à l'inverse, à se dire, puisqu'on peut se relier à distance, eh bien, on pourrait habiter la Terre différemment. Et là, se construit un désir de futur un peu alternatif, qui est ce désir, ben, je vais habiter comme une cabane dans la forêt. Et donc, c'est par un peu un jeu de dualité, mais je dis toujours ça, la dualité, c'est pas un monde binaire. C'est de dire, on va ouvrir un éventail, je veux pas ça. Ben, il y a une espèce d'imaginaire du contraire. Je veux un monde du lien humain, je veux un monde de la nature, je veux atterrir dans les relations, etc. Et du coup, la campagne, eh bien, elle va être porteuse de cet imaginaire-là. Et donc, il va y avoir tout un tas de gens qui sont dans cet imaginaire de réatterrir.
Comment réussir son installation et son intégration à la campagne ? Comment être un néo-rural ou une néo-rurale heureux ou heureuse ? Jean-Laurent Casselli, journaliste essayiste, co-auteur de La France sous nos yeux, avec Jérôme Fourquet, vous vouliez apporter des petites précisions.
Oui, je voulais rebondir sur ce que disait Valérie, ce que vous disiez Ali en introduction. Valérie Joussomme, sur le fait que de plus en plus de gens quittent les villes. En fait, c'est pas vraiment ce que les études post-Covid ont montré. Elles ont plutôt montré que de plus en plus de gens y pensent, en fait. Fantasment ce déménagement vers les campagnes. Pourquoi ? Parce que la campagne, c'est pas juste un lieu de vie, c'est un idéal de société. Derrière, ça a été dit, il y a on connaît ses voisins parce qu'on a grandi, avec. Il y a un comité des fêtes, il y a des petits commerces de proximité autour de la place du village. Ça, c'est la version idéalisée du village. Et souvent, quand on va dans un vrai village en France en 2024, ce qu'on voit, c'est plutôt que, en fait, les gens ont une voiture, voire deux voitures. Ils vont souvent au supermarché.
Il n'y a plus de commerce dans le centre-bourg.
Il n'y a plus de commerce dans le centre-bourg. Il y a souvent une forme d'anonymat parce que les nouveaux arrivants, on leur reproche beaucoup justement d'être plutôt utilitaires dans leur version, dans leur vision de la campagne et de pas vraiment se mêler aux habitants plus traditionnels. Donc il y a aussi, on parlait du bruit, quand vous avez un agriculteur qui fait de l'épandage à côté, du bruit, vous en avez. Donc c'est pas toujours aussi évident, mais c'est vrai que dans l'après-Covid, je suis d'accord que la campagne c'est devenu un idéal de rechange.
Dorothée Barba, productrice de Carnet de campagne.
Récemment dans les carnets, on a donné la parole à une entreprise de l'économie sociale et solidaire que j'aime beaucoup, qui s'appelle Villageois, mais ça s'écrit en trois mots. Villageois. C'est une entreprise qui organise des animations éphémères dans les toutes petites communes de France, dans ces fameuses communes justement où il n'y a plus de commerce, et qui installe temporairement de la restauration, des animations, une kermesse, mais aussi des cours d'informatique pour les seniors, du dépistage, que sais-je, par une infirmière, etc. Et ce qu'ils disent, les jeunes, parce qu'ils sont tous jeunes, qui s'occupent de cette entreprise, c'est la joie que ça met de voir se mélanger, en tout cas les anciens du village, partout où ils s'installent, sont joyeux de voir s'installer des jeunes, des néo-ruraux qui ont à cœur de faire du lien. Parce qu'il y a quand même cette question qui est importante et qu'on n'a pas encore assez évoquée, c'est comment se passe le mélange entre les gens du cru, comme on dit, et les néo-ruraux qui s'installent, plein de fantasmes et plein de belles idées sur cette vie à la campagne.
On va y revenir parce qu'on a beaucoup
villageois, en tout cas, qu'on contribue à briser un petit peu ces idées reçues et c'est une très belle initiative.
Et on va y revenir parce qu'il y a beaucoup de témoignages en ce sens. Valérie Joussol, je rappelle que vous êtes enseignante et chercheuse à l'Institut de Géographie et d'Aménagement de l'Université de Nantes et autrice de Plouc Pride. Vous vous demandez dans votre livre ce que désirent véritablement ceux qui rêvent de campagne.
J'ai essayé de réfléchir à le désir de campagne, c'est-à-dire pas aller simplement à la campagne pour être proche de la ville, mais justement à partir des années 90, notamment c'est les Anglais, les Britanniques, qui ont commencé à réinvestir la campagne. Et là, ils ont eu des choix de localisation qui ne correspondaient pas au choix du périurbain. C'est-à-dire ils cherchent non plus à être dans le périurbain pour être au vert, mais proche de la ville, mais au contraire, être loin de la ville. Et là, c'est vraiment les Britanniques qui vont influencer quelque chose de nouveau, c'est-à-dire être à la campagne pour la campagne. Et là, ce qui va devenir désirable, eh bien, ce sont finalement les campagnes qui sont restées le plus dans leur jus paysan. C'est-à-dire celles qui ont été le moins altérées par la modernité. Celles qui ont, par exemple, l'altération, entre guillemets, de la modernité, ça va être une agriculture industrialisée, ça va être l'arrivée d'une industrie qui, en général, est repartie, et donc une crise industrielle, etc. Donc, toutes les régions, ça rebat vraiment les cartes, parce que ce sont des nouvelles régions qui font rêver. On va dire, regardez, au moment des Trente Glorieuses, l'idéal, c'est d'habiter en ville, on veut une vie moderne. D'accord ? Donc, l'étalon, c'est la ville, c'est Paris, etc. Donc, voilà. Et puis, donc, on est dans la modernité, production, consommation. Et puis, à partir des années 80, désindustrialisation de l'Occident. Et donc là, la société occidentale entre dans un imaginaire consommation, distraction. Et là, on veut être comme en vacances, partout et tout le temps. Et là, l'étalon, ça va être la région touristique. Et donc, c'est un imaginaire. On veut habiter dans le sud, etc. Mais même si on n'habite pas dans le sud, regardez, dans le jardin, on va planter un olivier, y compris dans la région nantaise, on va planter des palmiers.
Oh, avec on va le avoir une climatique, ça passe.
Voilà, voilà, oui, tout à fait. Et comme dit Jean Viard, terrasse, barbecue, piscine. Voilà. Donc, voilà, ça, c'est les années.
C'est le modèle Plaza que vous défendez, que vous racontez dans votre livre La France sous nos yeux.
Oui, exactement. C'est celui de la maison individuelle qui reste hyper hégémonique, qui est aussi une des raisons principales pour laquelle les gens veulent aller à la campagne.
Mais là, on est en train de passer dans un nouveau schéma, c'est-à-dire que donc on veut être comme en vacances partout et tout le temps, donc ça change y compris la relation au travail pour les jeunes, etc. C'est pour ça que je vous dis, l'imaginaire, il ne faut pas le négliger. Et là, on est en train de passer dans autre chose, c'est je veux un autre monde. C'est-à-dire que ce monde hyper moderne, transhumain, hyper technologique, un peu sans contact, ne fait plus rêver. Et donc, on rentre dans un imaginaire où on se dit, je veux un autre monde. Et là, qu'est-ce que c'est un autre monde? Bah, c'est un monde qui sort de la modernité. Et là, pour moi, je dis, c'est encore un impensé politique, globalement. Et c'est ce que devraient penser les campagnes. C'est-à-dire, si je veux un autre monde, c'est quoi? Sortir de la modernité, je veux vivre comme une cabane dans la forêt.
Et ce que vous racontez dans votre livre, Valérie Jossomme, c'est que ce désir néo-rural répond à des besoins humains profonds. Un besoin de sécurité, permettre au corps de se protéger, un besoin de bien-être mental, psychologique. Valérie Bohain, la productrice du podcast Ciao Paris, l'expliquait tout à l'heure. L'installation à la campagne permet un apaisement psychique, une baisse du stress, une reconnexion ou une connexion avec les saisons, avec la nature. Et ça, faut pas le négliger, ces besoins humains très profonds.
En fait, alors moi, je m'appuie sur la pyramide de Maslow qui a été revue et corrigée en 2010. Donc, ils ont rajouté des étages. Bon, je rentre pas dans les détails là, mais et donc je suis partie de l'idée que la modernité Trente Glorieuses, elle répondait aux besoins humains fondamentaux qui sont un besoin de protection, être aimé, être protégé, etc., être en sécurité, des besoins de relation et puis des besoins de sens. Et donc, on peut dire que la modernité, avec la ville, il y avait, on pourrait dire, la famille avec deux salariés dans son pavillon, c'était le niveau de la protection. Il y avait le niveau de la relation, c'était la ville, c'est là où on va au lycée, c'est là où on va au cinéma, c'est là, voilà. Et puis, il y avait un sens, c'était la République qui donnait un sens, l'homme qui croit en l'homme. Et en fait, l'hypermodernité dans laquelle nous sommes entrés là, depuis une vingtaine d'années, elle détruit ces besoins humains fondamentaux ne sont plus satisfaits. C'est-à-dire que je ne me sens plus protégée parce que j'ai plus de contrat de travail, vous voyez. Et puis, est-ce que ce que je bois est sain? Est-ce que ce que je respire est sain, etc.
Et donc, la néo-ruralité va permettre de répondre à ces besoins humains fondamentaux.
L'idée, c'est de, puisque les besoins humains fondamentaux de protection, relation et de signification se perdent, les gens disent il y a plus de sens, et là, eh bien, l'idée, c'est de, par la campagne, on va essayer de se resatisfaire les besoins humains fondamentaux de façon nouvelle.
Valérie Bohain, je rappelle que vous êtes partie vivre à la campagne près de Toulouse suite à un burn-out en 2018. Cette histoire de besoins humains profonds, ça vous parle? Vous avez été journaliste à Psychologie Magazine, notamment.
Tout à fait.
Donc est-ce que vous avez retrouvé ce que vient de nous raconter Valérie Jossomme?
Oui, cette société sans contact dont vous parlez, c'est vrai qu'elle nous coupe aussi de nous-mêmes. Donc ce retour à la nature, c'est surtout un retour vers soi.
Racontez-nous votre intégration, votre installation dans la campagne toulousaine. D'abord, quel type de difficultés avez-vous rencontré quand vous êtes installé là-bas? Parce que vous le racontez, après une lune de miel, eh bien, il y a eu une redescente un peu brutale. Racontez-nous.
Oui. Alors, c'est pas tout à fait au moment où je me suis installée à la campagne, vraiment. C'était surtout la première année de l'installation, qui correspondait aussi au fait de reconstruire toutes les routines du quotidien dans ce nouvel environnement, Haute-Garonne. Et c'est vrai que c'est des zones de turbulence quand même qu'il faut traverser quand on change de ville et de vie.
Racontez-nous justement ces turbulences-là.
Bah, notamment une rechute de burn-out. Et je me suis rendu compte a posteriori que c'est aussi parce que je n'avais pas actualiser un peu mes désirs, mes envies, que j'étais restée sur des vieux réflexes que j'avais construits dans ma vie parisienne et qui revenaient comme ça un peu naturellement.
Géraldine nous écrit « Je vis en zone rurale, je vois arriver suite au confinement quelques néo-ruraux, ils sont les bienvenus, mais ils ont tendance à rêver la campagne et la ruralité, pas de transport en commun, pas de crèche, pas de médecin, pas de salle de fitness, ils veulent transposer le mode de vie urbain à la campagne, du coup ils sont souvent déçus. »
Oui, ça peut arriver. Il y a une question importante dans l'épisode 58 de Ciao Paris. J'ai interviewé Laetitia qui est allée vivre dans le Lot et qui en est revenue quelques années après. C'était une expérience qui l'a pas mal abîmée, dont elle est sortie grandie, mais qui l'a quand même pas mal abîmée. Et en fait, en parlant avec Laetitia, elle m'a aussi beaucoup aidée parce qu'elle s'est posée une question, enfin, elle avait oublié de se poser une question très importante, c'était: quel est le besoin que j'ai de la ville? Elle était totalement dans le fantasme de la campagne, donc elle est passée de Paris à Intramuros à une grande maison, même pas aux abords de Cahors, près de la forêt, quasiment sans voisin. Enfin, c'était... je parlais de palier tout à l'heure, je pense qu'il y a...
Il y a besoin d'y aller doucement.
De faire ta fête. Non, mais d'écouter ses peurs et d'écouter ses peurs, en fait. Quelles sont mes peurs et comment j'y réponds, comment je me sécurise.
C'est intéressant, Ali, le message que vous venez de lire. Ils sont les bienvenus, mais il y a toujours quand même cette question du mélange. Et moi, je pense à un tiers-lieu. Vous savez qu'on parle beaucoup des tiers-lieux dans les carnets de campagne, ces endroits où s'invente un mélange entre la vie et le travail, entre le loisir et le travail. Des lieux de vie aussi, on peut habiter dans un tiers-lieu. À Berger-Serein, pas loin de Cluny, en Saône-et-Loire, il y a un immense sanatorium à l'abandon qui est en train de devenir un tiers-lieu. Donc ce sera un endroit de culture avec des spectacles, un endroit pour les artisans aussi avec des ateliers, également une brasserie, on fera de la bière, on fait déjà de la bière, je crois, d'ailleurs, dans cet endroit. Et elle me disait ça, la personne qui porte à bout de bras ce projet, elle me disait, au début, on nous regardait avec beaucoup de méfiance, on s'imaginait qu'on était là comme des citadins avec des idées toutes faites, et il a fallu montrer patte blanche, et aujourd'hui, ça se passe bien. Mmh. Et les gens du coin, aujourd'hui, disent, si vous le faites pas, personne le fera, ce très beau projet de tiers-lieu à cet endroit-là.
Et nous accueillons Laura. Bonjour Laura.
Oui, bonjour. Ah, attendez, je récupère mon souffle. J'étais au sécateur électrique.
Ah oui.
Je suis en train de tailler dans les vignes.
Oui, parce que vous êtes sous la pluie, paraît-il. Vous êtes en train de couper votre vigne.
Et oui,
êtes...
voilà, c'est ça.
Et vous êtes dans l'Aisne. Vous êtes dans l'Aisne.
Je suis dans l'Aisne.
Alors, racontez-nous un petit peu votre installation à la campagne. Il y a 4 ans, c'est ça, après des années passées à Paris. Racontez-nous un petit peu.
Alors voilà. Enfin, moi, du coup, j'ai 27 ans aujourd'hui. Donc, 4 ans, j'étais encore toute jeune à 23 ans. Et en fait, moi, j'ai toujours grandi dans mon village, qui encore est un village, n'est pas un hameau. C'est-à-dire qu'on a un village de presque 3000 habitants. Mais voilà, on a une boulangerie, mais on n'a plus de fleuriste, on n'a plus différentes choses. Et en fait, j'ai toujours grandi dans ce village. J'ai été ensuite à l'internat, puis 4 ans en région parisienne. Je suis partie en voyage avec mon sac à dos. Et puis, en revenant, je me suis dit que il serait temps de tester si l'entreprise familiale viticole me plaisait. Tout ça, ça venait aussi d'un constat écologique, c'est-à-dire que c'est une forme de militantisme aussi, une petite exploitation de 3 hectares, ne pas la laisser partir à l'agrandissement, etc. etc. Et voilà, c'est qu'au départ, ça a été pas facile parce que j'ai vu le monde, j'ai vu différentes choses, j'ai vu l'ouverture, et c'est vrai que la ruralité, c'est hyper intéressant ce que disent tous vos interlocuteurs, parce que voilà, la ruralité, c'est pas le fantasme urbain où, en fait, finalement, j'ai beaucoup d'amis parisiens qui viennent et puis au bout de 2 jours, ils veulent repartir parce que c'est vrai que, il faut marcher 1,5 km pour la boulangerie, il y a plus forcément de café non plus, c'est-à-dire que c'est pas qu'il n'y a pas, c'est qu'il n'y a plus aussi, il faut penser la ruralité qui n'est plus ce qu'on appelle la ruralité d'avant, aujourd'hui c'est beaucoup la ruralité avec la vision des années 80, la version de mon grand-père avec les cafés dans le village, elle est plus forcément vraie, et c'est vrai qu'aujourd'hui ça se réinvente à travers des cafés associatifs, mais on a du mal à faire sortir les gens, et puis il y a un gros trou de 20 ans à 27 ans. Moi, c'est vrai qu'à 23 ans, il fallait que je fasse 40 minutes pour aller trouver à la ville d'à côté des jeunes qui me ressemblaient dans l'aspiration écologique et autres, parce que c'est pareil, la ruralité, elle n'est pas forcément nature, écologie. Là, je regarde mon village parce que je suis dans les hauteurs. Il y a plein de gens en maison, sans jardin, en appartement, qui ne vont pas forcément se promener autour. Et tout ça, c'est un constat des fois que les néo-ruraux, mais on va dire tous ceux qui fantasment la campagne doivent comprendre, parce que en fait, venir à la campagne, c'est pas venir avec le tertiaire qu'on a en ville.
Laura, quel est votre conseil pour réussir son installation et son intégration au-delà des fantasmes ? Conseil très concret, vous qui vivez dans l'Aisne depuis 4 ans.
C'est venir avec des idées, en fait, mais pas des idées politiques, j'ai envie de dire, des idées pour par exemple, si je viens, je m'installe, j'ai connu des cafés, des choses comme ça, je vois qu'il y a dans le coin un café associatif, c'est en fait s'engager et dire je vais venir faire un peu de bénévolat, je vais proposer des activités et pas attendre de la ruralité de nous amener ça, c'est-à-dire que c'est de trouver son cercle et puis ensuite faire un peu patte blanche et être à l'écoute, quoi.
Que vous inspire ce message que Nadette nous a envoyé ? Je la cite, « Notre petit hameau tranquille a accueilli des ex-citadins. Hélas, ils ont amené leur mode de vie avec eux. Depuis, c'est un déferlement de plaintes, de disputes entre voisins. Leurs chiens peuvent faire leur crotte chez les voisins, leur 4x4 pollué. Mais eux ne doivent pas être dérangés. La campagne est devenue leur terrain de jeu. Pas de convivialité, chacun pour soi. Comme en ville, dur, dur. »
Je pense que si je prenais un exemple, c'est comme si un rural qui habite dans une maison, qui a toujours habité dans une maison, vient ne serait-ce qu'en vacances dans un appartement et marche avec ses gros sabots sur le plancher. Si le voisin monte lui dire « Écoutez, ça fait du bruit sur le parquet », est-ce qu'il va lui dire « Allez vous faire voir, chez moi je marche à plein pied ». C'est une forme d'écoute aussi, c'est de faire un peu patte blanche et je vais dire un entre-deux parce que tous les ruraux n'ont pas forcément raison sur tout non plus.
Bien sûr.
Mais voilà, je vais prendre cette image de l'appartement. Si votre voisin du tout vous dit, en appartement, ça se passe comme ça, il faut faire attention, on fait attention.
Jean-Laurent Casselli.
Oui, merci effectivement Laura pour ce témoignage. Ça nous rappelle qu'il y a plusieurs campagnes, encore une fois, et que les néo-ruraux, c'est un peu un des problèmes, c'est qu'ils ont tendance à aller là où il y a déjà des néo-ruraux. Ils s'attirent entre eux. Donc il y a des hotspots de néo-ruraux, il y a des plateformes, il y a des plaques tournantes des néo-ruraux dans la Drôme, dans le Perche, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que au fil du renouvellement générationnel, les bons coins de néo-ruraux deviennent très chers, notamment en Provence. Donc, les nouveaux néo-ruraux vont dans d'autres.
Les néo-néo.
Voilà, ils vont défricher de nouvelles campagnes. Et c'est vrai que dans l'Aisne, ça me faisait penser au livre d'un sociologue, Benoît Coquart, qui a écrit un très beau livre justement sur ce qu'il appelle les campagnes en déclin. Et il a fait son terrain dans l'est de la France. Et il raconte ces campagnes dans lesquelles la plupart des gens, notamment les jeunes femmes qui sont diplômées, s'en vont. En ville pour trouver du boulot et ne reste que, d'ailleurs le livre s'appelle Ceux qui restent, ne reste que ceux qui n'ont pas vraiment le choix. Et on est loin en fait dans cet imaginaire-là, même dans ces paysages, de ce que nous, citadins, parfois on fantasme de la ruralité.
Jean-Laurent Casselli, pour évoquer les différentes formes de néo-ruralité, vous utilisez une formule schématique et très intéressante, le pavillon, la yourte et le mas. C'est une formule qui résume selon vous la cohabitation de plusieurs couches sociales et de plusieurs modes de vie dans un même lieu, à savoir la campagne.
Oui, alors ça peut être soit une typologie des trois types de campagnes existantes, soit des manières d'habiter et même des rapports à la campagne qu'on trouve dans les mêmes endroits, dans les mêmes lieux. Et pourquoi on utilise cette trilogie ? Parce que pour nous, le pavillon, évidemment, c'est le modèle de banlieue résidentielle pavillonnaire, encore une fois, aujourd'hui majoritaire dans l'esprit des Français et dans les pratiques, c'est-à-dire les gens qui vont avoir, qui ont des enfants, qui ont deux voitures, qui se déplacent beaucoup en automobile la journée, qui vont plutôt s'approvisionner en supermarché, qui sont plutôt dans un modèle moderne, traditionnel. Vous avez une campagne, je dirais un peu carte postale, chic, Instagram, des chambres d'hôtes, des lieux dans lesquels se ressourcer, où là vous allez avoir plutôt une campagne touristique, même si depuis le Covid on voit qu'il y a une certaine tendance à se résidentialiser dans ces communes de résidence secondaire. Et puis je dirais qu'il y a une troisième campagne qui est la campagne de Valérie parlait de la cabane, moi je parle de la yourte, parce que c'est la campagne de l'alternative radicale qui attire ces jeunes diplômés en transition rurale notamment.
Valérie Joussomme sur le témoignage très intéressant de Laura.
Oui, moi je suis d'accord avec Jean-Laurent, c'est-à-dire, et comme le disait Laura, dans la campagne, il y a plusieurs imaginaires. Jean-Laurent parle plus par classe sociale, c'est vrai, mais on pourrait parler par imaginaire, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui sont du cru, qui sont dans des types relationnels paysans, c'est-à-dire fondés sur les relations de famille, de village, etc. Il y a ensuite les modernes des Trente Glorieuses, qui eux sont là pour les services, comme une vie comme en ville, mais à la campagne ou moins cher. Et puis, il y a ceux qui sont dans l'imaginaire des vacances, tourisme, et maintenant arrivent ceux qui sont dans le désir d'un autre monde. Et donc, vous avez les classes sociales, vous avez ces imaginaires, donc il faut pas négliger les relations de classe sociale aussi, parce que à la campagne, on a quand même beaucoup de classes sociales populaires et moyennes et très populaires, donc il y a des différences et il y a des différences culturelles. C'est-à-dire,
j'aimerais prendre un exemple très concret de tensions potentielles entre néo-ruraux et ruraux. Imaginons le projet d'installation d'un Lidl, d'un Aldi ou d'un Netto dans une zone rurale. Cela peut être bien vu par les habitants du cru, au pouvoir d'achat très contraint, alors que d'anciens citadins néo-ruraux qui recherchent plutôt les commerces locaux en circuit court vont s'opposer à l'installation de ces supermarchés hard discount. Voilà un type de tension potentielle.
Et là, on voit... ça me fait penser à un petit conte immoral de Pierre-Jacques Azélias dans son livre Le Cheval d'Orgueil. Là, on voit un petit peu l'immoralité de l'histoire. C'est-à-dire que le paradoxe, c'est que on avait une société paysanne. Les modernes urbains, donc au début du XXe siècle, vont dire non, mais c'est complètement ringard, votre façon de vous habiller, de manger, etc. Il faut se moderniser, c'est-à-dire entrer dans une culture moderne. Les ruraux ont été acculturés, ils sont passés d'une culture paysanne à une culture moderne, ils ont été acculturés. Et donc, ils ont été acculturés dans une société moderne où, eux, ils ont été les classes populaires. Et donc, maintenant, on a ces ruraux modernisés des classes populaires, et là, il y a les citadins qui reviennent à nouveau leur expliquer maintenant qu'il faut inventer l'agriculture écologique qu'ils ont considérée comme ringarde. Et c'est là où je dis, là, il faut une conscience un petit peu éveillée, un petit peu ouverte, pour voir l'immoralité de la situation. Et donc, il vaut mieux reconnaître la société paysanne, mais sans juger trop durement ses descendants de paysans des classes très populaires.
Comment réussir son installation et son intégration à la campagne? C'est notre question dans cet épisode. Alors, Anne nous écrit « L'installation en espace rural n'est pas l'apanage de tous. J'invite tous ceux qui le souhaitent à s'intégrer en douceur, en observant ce qu'il s'y passe, afin de réussir l'installation à long terme. » Alors, Valérie Bohin, vous êtes la productrice du podcast Ciao Paris. Quels sont vos conseils pour justement réussir cette installation à moyen et à long terme?
Je dirais que changer de vie, ça peut faire peur, et que ces peurs, c'est très important de les écouter, d'aller placer les sécurités là où chacun en a besoin. Ça peut être les mêmes pour tout le monde, mais vraiment de répondre à ça. Elles sont là pour une raison, et c'est important de les écouter quand on construit son projet de départ. Une deuxième chose, ça serait de se demander quel est le besoin que j'ai de la ville dans mon quotidien. Très important, parce que ça va déterminer le choix entre une campagne qui va être dans l'air d'attractivité d'une ville, ou une campagne qui va être plus isolée, et effectivement qui peut faire fantasmer comme ça sur le papier. Cette campagne, je parlais de Laetitia tout à l'heure, qui est allée s'installer dans le Lot, aux abords de Cahors, près de la forêt. Il faut vraiment bien sentir la nuance entre solitude et isolement. Et un dernier conseil, je dirais que au moment où on arrive, c'est d'être proactif. Ouais. Dans une émission récente, il y avait un très joli proverbe soufi que je serais pas capable de réciter, mais en gros qui disait, en substance, ça dépend de ta posture, de ton point de vue, et de là dépendra le succès de cet ancrage à la campagne. Et du coup, d'être dans le faire plutôt que dans le dire, et de s'engager localement, de planter vraiment ses racines dans cette nouvelle terre.
Alors Michel nous écrit, j'habite un petit village de l'Aveyron qui s'était désertifié il y a 10 ans. L'arrivée des urbains était salutaire pour l'économie et la vie sociale. Par contre, le prix de l'immobilier a explosé. Dur pour les locaux de pouvoir s'acheter une maison à présent. Et puis un message assez dur de Jacques qui nous dit on n'a pas besoin des bobos des villes dans nos campagnes, restez dans vos cloaques. C'est dit, et c'est un peu violent tout de même, mon cher Jacques. Et nous accueillons Marie. Bonjour Marie.
Bonjour.
Alors vous êtes installée dans le Cantal en 2018, après avoir quitté Reims. Pourquoi ce choix, et comment avez-vous été accueillie justement, Marie?
Ce choix parce que je revenais d'un voyage au Maroc, donc que j'ai fait en sac à dos, donc un peu en touriste, et où je me suis installée aussi les 4-5 derniers mois pour travailler. J'étais professeure de français, donc à Casablanca, donc une grande ville. Également. Et avant ça, j'avais fait mes études et mes premières années d'expérience professionnelle à la ville. Et quand je suis rentrée en France, il y a eu un peu ce besoin. J'arrivais à une période un peu charnière où j'avais envie un peu de me rapprocher de mes aspirations. Et donc, comme je n'avais plus forcément d'attache en termes de logement, d'emploi, ça a été l'occasion pour moi de...
Alors, comment avez-vous été accueilli? Comment avez-vous été accueilli? Et quels sont vos conseils pour réussir son installation et son intégration? Vous habitez dans le Cantal depuis 6 ans à peu près.
Oui, c'est ça. Donc, moi, j'estime avoir été plutôt bien accueilli. J'ai eu la chance, en fait, je suis arrivée avec par rapport à un emploi que j'ai décroché. Donc j'ai eu la chance par la suite avec ces emplois de croiser et de pouvoir rencontrer beaucoup de monde, et du coup d'être intégrée un petit peu dans des réseaux, des connaissances de gens que j'ai rencontrés au fur et à mesure.
Et quels sont vos conseils, Marie, pour réussir son installation?
je pense que c'est ce qui a été un peu dit précédemment. Je pense qu'il faut aussi qu'il faut avoir une ouverture à l'autre, aller vers l'autre.
Des deux côtés.
Moi je l'ai fait en allant à des événements dans des tiers-lieux où j'ai été plutôt bien accueillie. Donc voilà, donc il y a cette je pense qu'il faut aussi trouver l'énergie d'aller vers l'autre en permanence.
Valérie Joussomme, un dernier conseil pour ceux qui rêvent de la campagne, de s'y installer.
Alors je pense que pour s'installer à la campagne, d'abord il faut accepter qu'il faut du temps pour se sentir quelque part. Je pense que l'importance du réseau relationnel et prendre modèle sur l'immigration des ruraux vers la ville. À Paris, il y avait les Alsaciens, les Auvergnats, les Bretons qui se regroupaient. Je pense qu'on a besoin il y a un dosage entre une forme d'entre-soi et de relation à l'autre. Je pense qu'il y a besoin d'une transition intérieure, quelque chose d'humble. C'est-à-dire, je l'ai raconté tout à l'heure, on a acculturé la ruralité à la modernité, mais je pense qu'aujourd'hui, les leçons de modernité ne sont plus admises. Et puis, se souvenir qu'à la campagne, il y a une règle de réciprocité, c'est-à-dire ce qui est donné un jour doit être rendu en son temps. Donc, si on vous donne une salade, peut-être vous allez plus vous en rappeler, mais le voisin va dire, il est pas très sympa, mon voisin, parce qu'il ne comprend pas les règles de réciprocité.
Très, très bon conseil, voilà. Dorothée Barba.
Moi, je vous conseille d'écouter les histoires des autres avant de vous lancer et donc d'écouter des podcasts, notamment Ciao Paris, le podcast de votre invité, mais aussi Laisse Béton ou encore Les Nouvelles Filles de la Campagne, qui est un podcast en Dordogne sur des profils de néo-rurales, des femmes néo-rurales, absolument passionnant. Écoutez les autres.
Les nouvelles filles de la campagne. Merci beaucoup Valérie Joussomme. On peut lire en poche un nouveau récit pour les campagnes, Plug Pride, édité aux éditions de l'Aube. Merci beaucoup Jean-Laurent Casselli d'être venu. Merci Dorothée Barba. On vous retrouve bien évidemment dans Carnet de campagne tous les jours à 12h30 sur France Inter. Et merci beaucoup Valérie Bohin pour votre podcast Ciao Paris, qui pourra aider certains d'entre vous qui souhaitent également partir s'installer à la campagne. Retrouvez dès maintenant tous les épisodes de notre série « Et si on changeait de vie » sur le site et l'appli France Inter.
Grand bien vous fasse est un podcast France Inter.